Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11. Et pour cette méditation, je vais faire appel à vos connaissances bibliques, basiques, pas très compliquées. En suivant la première lecture de tout à l'heure, à propos de l'Esprit Saint qui est tombé sur tous les croyants, et je choisis la version Bible français courant croyant, parce que souvent on croyait que l'Esprit Saint était tombé uniquement que sur les apôtres, et c'est pas vrai. Ce jour-là, l'Esprit Saint est tombé sur tous les croyants, et ça c'est très important de le souligner, puisque c'est le thème même de notre prédication d'aujourd'hui, le salut pour tout le monde. Regardez ici la liste des origines des personnes qui étaient présentes, entendant parler les croyants dans leur langue respective, versets 9 à 11. Il y a toute une liste ici de populations qui étaient là. Il y avait une quinzaine de nationalités qui furent présentes, rien que ce jour. Donc je vais vous poser la question, cette histoire vous rappelle-t-il un autre récit similaire dans l'Ancien Testament, mais qui est à l'opposé de ce qui était écrit ici? Quelle histoire dans l'Ancien Testament? Voilà la tour de Babel. L'histoire de la tour de Babel. C'est vrai que cette histoire n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Mais le parallélisme dans le sens contraire est frappant. Je dis bien que ce sont deux histoires parallèles, mais tout à fait opposées. Et dans Genèse chapitre 11, l'histoire de la tour de Babel, versets 1 à 9, il est question d'une action de Dieu qui a mis du désordre dans les langues des hommes qui voulaient construire une tour, dans le but, et c'est bien écrit au verset 4 de Genèse chapitre 11, dans le but d'être célèbre. C'est la première fois que j'ai vu ce verset-là. Souvent, on passe à côté. Parce qu'ils espéraient toucher le ciel. Et on voit à travers ce récit le désir de l'homme d'égaler le Créateur, voire même le défier. Et le scénario qui s'est passé se répète encore. Rappelez-vous l'histoire dans le jardin d'Éden, se répète encore et encore, mais ici sous une autre forme. Rappelez-vous, le couple voulait être comme Dieu. Le jour où vous allez manger de ce fruit, vous serez comme lui. Et à ce moment-là, il fut repoussé à l'extérieur. Autour de Babel, ils voulaient être puissants et furent dispersés dans le monde entier avec des langages différents. Mais ici, à la Pentecôte, l'humour de Dieu, on va dire, il revient dans cette histoire. Dieu a renouvelé l'histoire et a changé totalement la donne. Cette fois-ci, le Saint-Esprit est venu, non pas pour éparpiller et rendre la confusion entre les personnes à cause de leurs différences de langage, de culture. Au contraire, l'œuvre du Saint-Esprit ici rassemble à nouveau le monde entier. Le monde entier qui ne se connaissait plus dans leurs paroles. Ils se comprenaient à nouveau. C'était l'opposé de ce qui s'est passé autour de Babel. Et ce mot rassemblement est mis en valeur, puisque dès au verset 1, on sent bien l'accent voulu et souhaité par l'auteur. Il dit ici, ils étaient tous réunis, tous ensemble. Dimanche dernier, nous avions parlé de communion. Et toujours dans ce même esprit, le premier œuvre de l'Esprit Saint, c'est de rassembler les croyants autour de la parole. L'Esprit de Dieu agit toujours, je dis bien toujours, avec la parole. On ne peut pas séparer la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Et il faut retenir l'importance de cela, parce que lorsque les croyants se rassemblent, où qu'ils soient, pour écouter la parole de Dieu, l'Esprit agit et fait quelque chose par cette parole. Et là, je tiens encore à reconfirmer l'importance de croire au texte biblique que nous lisons dans chaque culte pour la prédication, parce que c'est réellement la parole de Dieu. Il y a beaucoup de discussions, on dit « c'est la Bible et non la parole de Dieu ». Mais je le dis ici, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que l'Esprit Saint agit en nous uniquement qu'à travers la parole de Dieu. Il existe une sorte d'interdépendance entre le Saint-Esprit et Jésus qui est la parole devenue chair. Depuis l'incarnation, c'est l'Esprit qui a conçu cette parole en Marie. Il est très important de le souligner cela parce que il se peut qu'il y a des gens qui vont essayer de nous tromper en disant que l'Esprit de Dieu agit en opposition de sa parole. Et là, j'emprunte la phrase de Jésus qui revient à chaque fois dans les évangiles. Je vous le dis en vérité, jamais, jamais le Saint-Esprit nous dictera de faire des choses à l'opposé de la parole de Dieu. Il se peut qu'il y aura des personnes qui vont se dire « J'ai reçu le Saint-Esprit et il vous dit de faire ceci et cela. » La consigne est claire. Vérifiez toujours tous ceux qui prétendent annoncer la parole de Dieu, qu'ils soient envoyés par Dieu, hors son message et à l'opposé de ce qui est écrit dans sa parole. Alors là, il ne faut pas hésiter à lui dire « Non, ce n'est pas vrai. » Le Saint-Esprit est souvent mal connu, même par nous. Souvent, on ne connaît que Jésus, n'est-ce pas ? Le Père. C'est rare qu'on parle du Saint-Esprit. Et pendant notre réunion du Graon, cette semaine, nous, les protestants, nous sommes accusés par les autres dénominations que nous avons une autre trinité bizarre. On croit au Père, au Fils et à la Bible. Ça, c'est notre trinité protestante, paraît-il. On oublie le Saint-Esprit. Et c'est vrai, quelque part. Et regardez comment il se manifestait, le Saint-Esprit, ici. Nous allons profiter de ce texte pour savoir un peu plus sur cette troisième personne de la Trinité. Du bruit, un vent violent qui se mettait à souffler. Et ensuite, des flammes qui apparaissaient et se manifestaient au-dessus des croyants. Cela nous rappelle la manifestation d'Yahvé au peuple d'Israël qui voulait entendre la voix de Dieu sur la montagne, qui disait « Non, non, on ne veut plus que tu sois le médiateur, l'intermédiaire. On veut entendre la voix de Dieu directement. » Et ce jour-là, personne n'a pu comprendre la parole de Dieu. Et finalement, ils ont changé d'avis parce qu'ils étaient effrayés d'entendre cette voix. Et cette manifestation de l'Esprit Saint aux croyants nous montre que ce n'est pas juste une force surnaturelle, c'est une personne. Et quand je parle de personne, il faut enlever dans notre tête la définition d'une personne comme nous aujourd'hui. Mais quand on parle de personne, c'est un être qui veut entrer en relation. Quand on parle de personne, on parle de relation, qui vient vers l'homme, qui veut avoir une relation avec chaque individu. Et cette personne, il a la même gloire que le Père et le Fils. Alors n'hésitez pas, n'ayons pas peur de lui parler. Essayez, c'est peut-être un peu nouveau pour nous de dire « Saint-Esprit », au lieu de dire de temps en temps « Oh Jésus » ou « Oh Père », n'hésitez pas à vous confier à lui, de s'adresser à lui comme nous avons l'habitude de s'adresser au Christ. Et ce qui est rassurant à travers cette histoire, le fait de parler en différentes langues, c'est que l'Esprit Saint se démocratise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde peut avoir accès à lui, quelle que soit sa nationalité. Ce que nous savions de Dieu depuis l'Ancien Testament, c'est qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Mais ça, c'est terminé. Et déjà dans le livre d'Ésaïe, Dieu avait déjà promis « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit l'Éternel. Je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. » Romains chapitre 10, verset 20. Donc, grâce à l'Esprit Saint, toi et moi, qui ne font pas partie du peuple élu au départ, nous sommes dorénavant appelés peuple de Dieu grâce au Saint-Esprit. Rappelons-nous aussi de ce qui est dit dans la confession de foi, nous allons prononcer tout à l'heure, selon les symboles des apôtres, dans la troisième article qui dit « Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle ». C'est ça qui nous rend unis en communion Dieu. Et même les trois articles, la première article sur le Père, la deuxième article sur le Fils et la troisième article sur le Saint-Esprit, ils ont tous une dimension cosmique ou universelle. Le Père est créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire l'univers. Le Fils qui sauve toutes les générations. Et quand on parle de toutes les générations, ceux qui étaient avant lui et ceux qui seront après lui. Et enfin le Saint-Esprit pour tous les croyants, quelle que soit sa race. Avant de terminer cette méditation, j'aimerais exhorter chacun d'entre nous, quelle est notre responsabilité face à cette grâce que Dieu nous donne. Hier, j'ai suivi une émission où on parlait de la stratégie des frères musulmans pour répandre le message d'un islam radical. J'étais fort étonné qu'ils avaient tous un point commun. Tous avaient une ambition universelle. Alors je me pose la question, et nous les chrétiens, avons-nous des projets ou une vision universelle pour l'Évangile? Ici c'est clair, tout le monde a pu entendre l'Évangile. Ou est-ce que nous nous contentons simplement à dire quand je mange bien, quand je trouve un bon travail, quand j'ai un toit sur ma tête, quand mes enfants peuvent étudier normalement et que je peux vivre ma foi dans mon petit coin à moi, ça me suffit largement. C'est pas ça la mission que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, tous les disciples, tous les apôtres, tous les croyants sont partis dans le monde entier. Il faut aller dans le monde entier. N'oubliez pas, chers amis, que nous avons reçu un ordre de mission bien précise. Et ce n'est pas facultatif, mais le mode utilisé est impératif. Aller dans le monde entier pour faire des disciples. Est-ce possible pour toi, pour moi? Oui, c'est possible. Maintenant, nous avons tous les moyens possibles de le faire. Avec la technologie, les moyens de communication, tous les réseaux sociaux qu'on utilise, on a les moyens d'évangéliser. N'hésitez pas. On a peur de recevoir l'étiquette de prosélytisme, mais on a le droit de proclamer sa foi. Pourquoi sommes-nous timides de montrer notre identité chrétienne? Or, les autres, ils s'imposent dans la société. Où sont les chrétiens? C'est une question que Dieu nous pose, surtout dans ces moments où on célèbre la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas simplement la joie d'avoir le Saint-Esprit, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il nous envoie en mission. Amen.